Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Roisonne, c'est Romain. Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Stade Rennais. Nouvelle défaite hier soir, la quatrième de suite pour les Rouges et Noirs. Ce soir, le Stade Rennais est 9e en attendant le match opposant le Stade Brestois à l'Olympique Lyonnais dans quelques minutes. Ce soir, nous allons revenir avec notre équipe sur la défaite donc du Stade Rennais hier face à Toulouse. La situation au classement, retour sur les propos tenus en après-match par nos joueurs ainsi que notre président. Et un focus sur le derby qui aura lieu samedi prochain à 17h. Pour m'accompagner ce soir, Léo est avec moi. Comment vas-tu, Léo ?
Salut Romain, salut tout le monde, salut Pedro, salut Alan, salut à celles et ceux qui nous écoutent. Ça va, comme un retour de vacances, prêt à reprendre le boulot demain avec les batteries reposées. Mmh. Psychologie un peu affectée par le Stade Rennais que j'ai néanmoins suivi pendant 3 semaines pendant que j'étais parti. Et retour au stade du coup hier face à Toulouse où on s'est fait plaisir.
Oui, une purge pour reprendre les propos d'Arthur Théat. Nous reviendrons dessus. Pedro est avec nous également. Comment vas-tu, Pedro ?
Bah moi, ça va très bien. Je vois pas de quoi vous vous plaignez. C'est le premier dimanche que Rennes perd pas depuis longtemps.
Oui. Tu vis dans l'ignorance, peut-être.
Écoute, on est dimanche et Rennes n'a pas perdu.
Oui, c'est pas si faux.
Voilà. Donc, non, mais c'est une bonne idée de nous avoir pourri notre samedi soir. Comme ça, on a eu un dimanche tranquille. Moi, je suis content de mon dimanche. C'est un bon dimanche. Alors, vous allez m'apprendre ce qui a été dit après le match hier parce que, en fait, j'ai coupé avec le Stade Rennais à la 96e minute.
Ok.
Au moment du coup de sifflet final, j'ai disparu du bar. Je suis rentré chez moi et depuis, je vis terré et je regarde des films, j'écoute de la musique et je mange des chips.
Bon, t'as donné des nouvelles à tes potes quand même.
Voilà, j'en donne. Je suis en vie.
Ok. Et puis pour compléter cette équipe, Alan est avec nous. Comment ça va, Alan ?
Ça va très bien. Hein. Écoute, avec ce joli week-end de printemps, là, il fait super beau, donc ça va très bien. Malgré un beau orage vers le milieu du week-end. Enfin, je vois pas pourquoi, mais voilà. Mais ouais, non, ça va très bien sinon.
Ouais, c'était un week-end parfait en théorie, une belle réception. J'étais tellement hypé hier, moi je sais pas vous, mais retour du Stade Rennais. En fait, j'adore les matchs quand tu sais que tu bosses pas le lendemain, c'est magnifique. Et avec cette superbe après-midi, tu profites, les terrasses, tu arrives au Roisen Park, il est 17h. Tu commences tranquillement avec les copains, la petite galette saucisse, coucher de soleil, c'est magnifique. Et puis tu sais pas ce qui se passe. T'as ce but qui est vraiment bien, quelle action de Désiré Doué, mais derrière. Bah, c'est affreux. Et en plus, cette frappe, elle est pile devant moi, c'est-à-dire qu'elle est pile dans mon angle, j'étais en plein cœur de la tribune Mordel. Je vois le départ de la frappe, et là, je fais « Oh merde !» Et bah oui, elle est dedans. Et le deuxième but, c'est à peu près pareil, pas mal de choses à redire dessus. Messieurs, qu'avez-vous pensé de ce match avant de rentrer dans le détail en top flop ? Tu disais, Pedro, toi tu l'as regardé en bar, Léo, toi tu étais au match. Alan, je suppose que tu l'as regardé à distance aussi sur ton écran. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? C'était clairement en demi-teinte, une première mi-temps où on a vu des choses. Mais défensivement, il y a eu pas d'incertitude, mais il y a eu beaucoup d'erreurs, en fait. Et une deuxième mi-temps où on ne produit absolument rien. Comment vous avez vécu ce match-là ? Pedro, je te laisse commencer parce que tu avais l'air un petit peu énervé hier soir.
Ouais, en fait, avec du recul, l'énervement est retombé, évidemment. Hein. Mais je ne vais pas être tendre pour autant. Une équipe qui jouerait difficilement le maintien, je pense, si elle jouait comme ça depuis le début de la saison. C'est de pire en pire. C'est vraiment de pire en pire. Quoi. Hier, c'était pire que les 3 défaites précédentes, vraiment. Des errances ahurissantes derrière, alors qu'on pourrait imaginer ça d'un match début août, tu vois. Des défenseurs qui ne se connaissent pas, qui ne se trouvent pas, qui ne connaissent pas encore bien les consignes du coach.
Et qui ne communiquent pas.
On est en avril, quoi, en fait. Donc, bon, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de nos gueules. Parce que là, il n'y a pas de déficit athlétique ou il n'y a pas de... Les mecs, c'est des joueurs de foot professionnels, quoi. Et ils ont tous prouvé, plus ou moins récemment, qu'ils savaient faire leur métier correctement. Alors, j'arrive pas à comprendre comment ça peut donner ce résultat-là hier. En défense, notamment, mais au milieu de terrain, il y a eu des errements aussi. Et devant, bah, ça tripote, c'est bien, mais ça va pas au fond, quoi. Bon, hier, on a marqué. On n'avait pas marqué sur les 3 précédentes défaites. Un but qui, moi, me fait plaisir parce que Désiré Doué mérite de marquer un hier, mais confirme ce que je disais 15 secondes avant le but dans le chat, à savoir que... c'est vraiment malheureux pour lui, mais ça confirme mon avis que Désiré Doué marque des buts qui ne sont jamais décisifs, puisque je disais 15 secondes avant l'égalisation toulousaine, à quelqu'un qui me disait « Tché, t'as vu, c'est Désiré qui marque ?» Je lui dis « Ouais, mais si à la fin on perd demain, ça sera quand même un but anecdotique. » C'est malheureux pour lui que ça soit anecdotique hier, mais si ses camarades avaient été en mesure de produire ce que lui a produit, ou son frère d'ailleurs, peut-être qu'on aurait pu voir un peu plus de lumière, aller glaner un point, peut-être même trois contre cette grande équipe de Toulouse, mais ça n'a pas suffi. Alors Désiré a été à la hauteur, on en reparlera dans les tops et les flops sûrement, mais les autres n'ont pas suivi et du coup le but de Désiré ne sert à rien.
Oui. Oui, et pourtant il avait bien mis cette équipe et ce public d'ailleurs dans la marche, l'ambiance qui était vraiment bonne, j'ai trouvé jusqu'au but. C'était moi j'étais dans le stade, franchement je trouvais ça très cool, c'était soir de fête comme je disais.
Ouais, la télé ça rendait bien.
Tu disais quoi Alan?
À la télé ça rendait plutôt bien.
Je suis pas étonné, franchement c'était très cool. Comment tu l'as vécu toi Léo? Parce que jusqu'à l'égalisation toulousaine, ça semblait de la soirée parfaite.
Bon, la soirée parfaite, je sais pas, mais ça avait très bien démarré. Et ouais, je rejoins ce qu'est dit sur l'ambiance. Je pense que tout le stade, malgré les derniers, enfin tous les supporters qui étaient présents, malgré les derniers résultats, avait l'air d'être très content de retrouver le Roazhon Park. ce qui d'ailleurs a été un joli contraste avec la fin de match où il y a eu que très très peu de sifflets, mais on pourra en reparler après. C'était chouette. Moi, je l'ai vécu aussi. Je l'ai très bien vécu ce début de match depuis les latérales. Où ça chantait, ça tapait dans les mains, ça sautait, ça se levait. Enfin, franchement, c'était très très cool. Donc côté ambiance, jusqu'à l'égalisation de Caceres, c'était cool. Et puis après, ça a été la débandade et la tombée dans les tréfonds de l'enfer, si on peut dire. Mais honnêtement, comment vous pouvez en vouloir au public? Le RCK a donné ce qu'il avait à donner en termes d'ambiance. Moi, j'en veux pas au public derrière d'avoir entre guillemets pas su continuer de suivre l'équipe, hein, tellement il se passait rien sur le terrain.
Bien sûr.
Donc voilà. Côté ambiance, c'était chouette, puis très compliqué quoi, tout simplement, à l'image du match hein, de manière générale.
Ouais. Ouais. Pour finir, Alan, comment tu l'as vécu toi? On disait ce match qui commençait bien, un but vraiment très très fort de Désiré Doué, hein, il se l'est créé tout seul. Ça partait pourtant bien.
Ouais, c'est ça. Après, on marque quand même un peu, je trouve, sur une action un peu individuelle. C'était quand même assez compliqué collectivement, malgré ce but. Il réalise quand même un exploit. Enfin, le but est superbe, hein, mais on réalise quand même un exploit. Et genre, enfin, je trouve que là, ça fait quand même depuis le retour de la trêve, t'as plus l'impression de voir une équipe qui joue le ventre mou, enfin, qui a plus grand chose à jouer et qui est pas. Enfin, je trouve qu'il est plus concerné par quoi que ce soit, et encore moins par l'Europe. Donc ouais, je trouve que c'est quand même assez compliqué, quoi. Donc voilà, je pense qu'on va longtemps détailler ce soir, mais j'ai pas trouvé une équipe qui voulait jouer l'Europe hier soir, quoi.
Ouais,
un autre grand regret.
Complètement. Merci à Mister Nobody qui s'est abonné et qui a pris son 17e mois d'abonnement avec Amazon Prime. Merci beaucoup pour ce sub, Mister Nobody. Big Fluo qui nous dit « Salut à tous, dégoûté du match d'hier, catastrophique, Théâtre a tout dit. Le discours le plus franc reste celui de Théâtre, nous dit Mister Cam. » Justement, on l'écoute juste après. Mister Cam qui nous dit « On n'a rien à en retirer, je suis team optimiste habituellement, toujours à y croire, mais que ce soit au niveau du jeu, de la dynamique, etc., je ne comprends pas comment accrocher une place en Europe. Déjà la semaine prochaine, Nantes à Nantes, je ne vois pas comment gagner, alors bon. » Bien justement, ça va être l'objet aussi de cette fin d'émission. Messieurs, quel joueur avez-vous aimé, moins aimé? Je pense qu'on va se rejoindre un peu tous, mais je vais vous demander un petit peu. Alan, je te laisse commencer, quels sont les 2-3 joueurs que tu mets en avant sur ce match?
Déjà, je pense que depuis 3-4 matchs, Mandanda déjà, puis surtout sur le match d'hier quand même. Mandanda, okay. Et puis Désiré Doué. Et par séquence, je dirais quand même Guéla Doué, mais vraiment par séquence pour trouver un troisième, quoi. Ouais, je pense que Mandanda et Désiré Doué, ça va être les deux qui ressortent vraiment du lot, quoi.
Ok. Je vais suivre. Et puis après, Léo et Pedro, je vais vous demander. Moi, je vais mettre Désiré aussi parce que sa percussion, etc. Mais je trouve qu'il y a encore. C'est dommage. Mais on voit aussi ses défauts sur ce match. Il y a beaucoup de qualité dans le dribble, dans la percussion. Mais qu'est-ce qu'il y a des fois où il est très énervant sur ce match Après, tu peux pas lui en vouloir parce que c'est le seul qui essaye de faire quelque chose. Mais dans la dernière passe, dans les derniers choix, je trouve qu'il y a trop d'imprécisions, mais forcément qu'il est en top sur ce match-là. Il marque un très joli but. Et merci beaucoup, dis donc, ça continue. Merci Mr. Cam pour l'abonnement et puis Watching, alias Alan, qui est avec nous juste ici. En deuxième top, moi je vais mettre Fabian Rieder. Je suis assez content de son rendement. Vous avez l'air pas du tout d'accord avec moi.
Je rallume mon micro.
On en parlera après. T'es d'accord, Pedro ? Je pense qu'on est du même avis.
On va pouvoir débattre.
C'était affreux.
Ok, on va pouvoir débattre. Je l'ai trouvé franchement correct. Alors, la sortie de Lefebvre, elle fait très mal. Parce que de retour de blessure, premier match titulaire. Et franchement, sa sortie sur blessure, je crois qu'il était à peu près en pleurs. Ça fait très mal au cœur.
Logique, ouais.
En voyant,
on a des infos. Excuse-moi, Romain, on a des infos d'ailleurs.
J'ai rien vu passer. Si vous avez des infos dans les commentaires, n'hésitez pas. J'ai rien vu passer. Donc oui, tout ça pour dire que personnellement, moi, j'ai trouvé sa rentrée bonne. J'ai trouvé qu'il essayait de se projeter. J'ai trouvé qu'il a eu un volume de course qui était intéressant. Il allait aussi bien récupérer des ballons bas. Dans la communication sur le terrain, je l'ai trouvé bon parce que c'était le seul à haranguer les foules là où je trouvais Santa Maria un peu plus compliqué là-dedans. Ce que je reproche à Santa Maria souvent, c'est de faire le boulot, mais de. En fait, je trouve qu'il n'y a pas de supplément, il n'y a pas cette. Là, quand t'es mené, je vois pas trop l'intérêt du gars sur le terrain du point de vue du caractère. Donc bref, tout ça pour dire que moi j'ai plutôt bien aimé son match et effectivement Guéladoué par intermittent j'ai trouvé intéressant. À un moment son run sur la droite, je sais pas si vous voyez en fin de première mi-temps, je savais pas si c'était Désiré ou Guéla, mais c'était vraiment intéressant. Pedro, je t'en prie, je te laisse enchaîner.
Alors, c'est très marrant parce que j'ai un sentiment bizarre avec le match de Désiré Doué. Je pense que dans un match mettons que le match d'hier on le gagne 3 ou 4-0, que toute l'équipe cartonne et que Désiré Doué fait le même match, je le colle peut-être en flop. Mais étant donné qu'absolument tous les autres joueurs ont décidé de rester éteints sur le terrain,
mais c'est ça, t'es obligé.
Bah, je vais mettre les deux frères Doué parce que c'est les seuls à apporter de la dinguerie hier, quoi.
Exactement.
C'est les seuls qui sont capables de ramener quelque chose hier, et j'en veux presque à Bourigeaud de foirer, bon, c'était très compliqué à mettre, hein. Mais de foirer sa frappe du gauche là, qui passe ras du poteau droit après le déboulé de Guéla, où il nous fait pêle-mêle, grand pont, petit pont, il enchaîne, c'est un truc de ouf, parce que ça change, je pense, le match. Et bah oui, donc les deux frères doués, quoi. Je peux pas mettre Mandanda, parce que pour moi, même si Guéla est fautif, évidemment, sur le second but hier toulousain, premièrement, pour moi, il n'est pas le premier fautif. Deuxièmement, il y a un jeu au pied de Mandanda qui est... Enfin, bref. Donc, ça peut pas mériter un top hier. Mandanda, même s'il y a des très beaux arrêts, je pense qu'il nous coûte au moins autant le but que ses défenseurs. Donc, voilà.
Ok. Léo, je te laisse enchaîner, puis on passe au flop.
Ouais, des tops relatifs. Je suis assez d'accord avec Pedro et Alan pour avoir cité Désiré, mais parce que effectivement il y avait rien d'autre derrière. C'était apathique au possible. Totalement d'accord avec le constat de Pedro de dire que si effectivement on gagne ce match-là haut la main, Désiré Doué, il fait partie potentiellement des flops s'il fait le même match. Donc c'est un constat que je suis complètement. Mais si je dois prendre, si je devais faire, on va dire, deux tops sur le match dans sa globalité, vraiment dans sa globalité, il n'y en a aucun. Voilà, littéralement. Il n'y en a aucun qui mérite d'être dans les tops hier soir. Parce que même Désiré Doué, qui a été, on va dire, le plus dangereux, qui a essayé de se montrer le plus dangereux, a, je trouve, été moins bon que ce qu'il n'a apporté de bon. Parce que le nombre de ballons qui ont été perdus, où ça n'allait pas dans le sens du vœu, enfin, où il nous a fait du Désiré Doué qui était un peu classique. Mais encore une fois, et je crois que c'est Pedro qui l'a dit, j'ai du mal aussi à lui en vouloir parce qu'en fait, il a tellement, en tout cas hier soir, il a eu 9 peintres autour de lui qui ne, qui ne se montrait pas, il n'y avait aucun mouvement, il n'y avait rien. Enfin, j'ai presque pas envie de lui en vouloir de garder le ballon collé dans les pieds une fois sur deux.
Il y a Guiri qui fait
ça n'empêche pas qu'il, et... mais ça n'empêche pas qu'il est très il reste super frustrant à avoir joué, quoi. C'est ça qui est horrible.
Ouais.
Tu disais, Pedro?
Ouais, je disais, t'as Guiri qui fait des trucs aussi, mais tout seul, alors.
Ouais, et puis il frappe
ouais,
pas.
Ouais, mais Guiri, il fait des trucs tout seul. Guiri, il frappe pas, t'as l'impression.
Il fait le tour de la surface sans frapper.
Il fait le tour de la surface, ou quand il rentre dedans, t'as l'impression qu'il veut passer la ligne avec le ballon dans les pieds. Enfin,
il pourrait dribbler deux fois tous les joueurs, histoire d'être bien sûr de bien les avoir dribblés avant de tirer.
Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a rien qui se dégage de cette équipe. Il n'y a plus rien qui se dégage de cette équipe, littéralement. Et je ne sais pas où. Ce que cette équipe cherche à faire.
En fait, on se trompe.
Sur les quatre principes du jeu offensif et défensif, deux sur l'offensif, deux sur le défensif, je suis incapable de vous dire ce que l'équipe veut faire. Incapable.
On parle d'équipe, mais c'est pas une équipe, c'est une somme d'individualités. C'est le cas depuis le début de la saison. C'est pas parce que.
J'ai même pas vu d'individualité hier soir, hein, pour le coup.
Non, mais en plus,
je veux dire, désiré, c'est tout. Quoi,
mais
tout, quoi.
Mais on a perdu le lien collectif.
Ouais, c'était vraiment compliqué. Messieurs, sur les flops, et je vous laisse aussi les données dans les commentaires. Je pense que là, vous aurez des choses à dire également. On va faire ça rapidement. Alan, je te laisse donner tes flops, et puis ensuite, on passera aux réactions.
Bah, honnêtement, j'arrive pas à en ressortir parce que ça a tellement été une bouillie que, honnêtement, j'arriverai pas à en ressortir.
Okay.
Bien que là j'ai vu, enfin du coup j'ai pu voir les notes en avance, mais je pourrais pas en ressortir parce que, enfin ouais non, tu peux pas, enfin moi j'arrive pas à en ressortir quoi.
Ok. Léo.
Bourige.
Eh oui.
Bourige, son match il est catastrophique, c'est une catastrophe. Son match.
En dehors de sa frappe et de son run sur le moment, il est.
Il n'y a rien d'autre. C'est triste pour lui, mais il n'y a rien d'autre. Et le deuxième, j'aurais tendance à faire une bagarre entre Omari et Bélocian, parce que Omari, il est encore loin d'être exempt de tout reproche pendant le match. Même, j'en ai débattu hier soir sur Twitter. Malgré qu'il y a certains qui soient très joueuristes comme ça, très fixés là-dessus, Omari, il est à l'image de cette équipe-là. Et encore hier soir, je suis désolé, hein, mais le premier but, il est entièrement pour lui. Et qu'on ne parle pas de touches qui étaient en faveur du stade ou machin pas en faveur du stade. Si Omari, il déconne pas, il se retourne pas, il fait pas un pin pirouette sur lui-même alors que il peut jouer beaucoup plus simplement au départ. Il y a pas de but, hein, ça existe pas. Hein.
Ouais, mais Mandanda ne doit pas jouer ça non plus comme ballon, arrête.
Ouais, mais on est beaucoup trop naïf.
Il déconne complet, mais c'est collectif. Je veux dire. Mandanda, c'est nul à chier ce qu'il fait avant lui aussi. On doit. Enfin bref.
Et Bélocian parce que ouais, effectivement en grande difficulté aussi je l'ai trouvé sur son côté gauche. Alors je vois dans les commentaires c'est Valzer qui dit que il avait pas joué depuis longtemps, je te l'accorde, ok, mais en fait au bout d'un moment c'est même plus une excuse que je vais entendre, parce que c'est des mecs qui sont pros, c'est des mecs qui s'entraînent tous les jours de la semaine. Alors oui, il y a quelque chose qui est différent dans l'approche d'un match quand t'es un sportif pro. Tu vis complètement différemment le contenu d'un match que le contenu d'un entraînement. Mais à un moment, je suis désolé, il y a certaines choses que tu dois être capable d'attendre d'un joueur comme Bélocian, aussi jeune soit-il, mais avec un statut de professionnel. Et ça a été ultra, ultra, ultra hasardeux. Mais en fait, au final, quand on prend, et c'est là où je rejoins Pedro sur la somme d'individualité, sur le plan défensif et tous ces trucs-là, machin, et si on doit ressortir des flops, tralala, oui, avec une somme d'individualité. En fait, on pourrait littéralement mettre tous ces 11 joueurs-là en flop en se disant que il n'y a plus aucune émanation collective de quoi que ce soit, et qu'à la fin, en fait, c'est limite compliqué de dire qui est responsable de quoi. Sur tel ou tel but, en fait, on ne sait plus qui mettre la faute, mais au final, c'est bien, ça permet de faire un consensus très simple. C'est qu'au final, c'est toute une animation défensive qui est dégueulasse. Donc c'est bien, il y en a pas un qui tire plus son épingle du jeu sur le plan merdique, mais c'est d'autant plus problématique. C'est d'autant plus problématique de voir que il y a une forme d'homogénéité de la médiocrité qui s'est installée depuis un mois au stade.
Ouais, Ouais, c'est le discours est défaitiste, mais réaliste. Je vois que vous avez pas mal de réactions. Je vais les lire juste après. Merci beaucoup à The Crack Ben Yedder pour son 4e mois d'abonnement. Salut la team, j'espère que vous allez bien malgré les déceptions. Bah écoute, personnellement ça va, mais c'est vrai que c'est compliqué.
C'est
après, cette heure de débrief fait du bien. Pedro, je te laisse continuer pardon, et je terminerai sur les flops, sur mes flops.
Bah écoute, si tout l'orchestre est pourri, peut-être que c'est de la faute du chef d'orchestre aussi un peu. Donc Stéphane, il va prendre la première place de mes flops. Et puis pour ne pas citer la défense, parce que ce serait presque trop facile, on va faire abstraction de leur cas, on va dire. Je vais mettre Kalimuendo parce que en plus. Je sais que c'est dur.
Mais c'est le seul à avoir été en vrai un peu
offensivement. Mais en fait, je pense qu'il est desservi par un truc. C'est que on a des attentes auxquelles il ne peut pas répondre. Et c'est d'autant plus frustrant que certes, il joue un rôle qui est nécessaire, mais in fine hier, on perd quand même 2-1 et il est aux abonnés absents en termes d'occasion. Et c'est compliqué parce qu'il joue quand même en pointe, quoi. Donc, comme j'ai déjà dit ce que je pensais du match de Guiri hier, qui pourrait très bien l'avoir aussi, je le mets à Kalimuendo juste pour rappeler que, à ceux qui se rappellent, qui l'ont peut-être pas vu, qu'il était là hier. Il était là, alors il avait un rôle ingrat, certes, mais il a le droit aussi d'essayer de participer un peu plus en termes d'animation offensive. Et je pense que c'est...
Il l'a fait hier, Pedro, franchement. Le nombre de ballons où ça a décroché, etc. Encore une fois, en fait, on lui demande de faire. En fait, c'est ça, c'est là où tu as raison, c'est qu'on lui demande de faire ce qu'il sait pas faire.
Ça nous ramène au chef d'orchestre. Mais c'est pas tellement. C'est vrai qu'il y en a qui méritent beaucoup plus hier que Kalimuendo, hein, mais je pense qu'on va en parler. C'est plus pour souligner l'ingratitude de son poste et l'inutilité de son talent offensif dans des matchs comme celui d'hier.
Ouais. De mon côté. Le flop évident, et je suis curieux que t'en aies pas parlé, Pedro, même si je pense que t'es d'accord, c'est Warmed Omari de très loin. Parce que tu regardes de très très loin, tu regardes ce premier but, on est sur une toupie éclair. Pourquoi paniquer comme ça 2 minutes après avoir marqué? Je ne comprends pas. Je sais pas s'il est fan de Beyblade, je sais pas s'il est fan de Marie-Claude Pietragala, je ne sais pas. Mais pourquoi faire cette toupie je ne comprends pas. Mais ça n'a aucun sens. Je vraiment.
On a sorti Marie-Claude Pietragala dans ça.
Il est beau celui-là. Il est beau.
Il y a respect.
Bravo. Bravo.
Donc ce premier but, évidemment, que s'il n'y a pas ce 3-6 inversé, il n'y a pas de but. Le deuxième, c'est encore plus criant parce que l'erreur, elle est directe. Vous blâmez Doué. Pour moi, je vous le dis, Doué n'est pas à blâmer sur le deuxième but.
Moi j'ai dit qu'il n'était pas tellement à blâmer.
Non, parce que il y a une grosse erreur de Marie, c'est sur la communication. Si vous regardez ce but-là, je viens de le re-regarder juste avant, parce que je me rappelais de l'avoir vu sur le moment, et je viens de le re-regarder pendant que vous parliez. Il y a une transversale qui est effectuée par les Toulousains. On a une ligne de 3 avec Théâtre qui est un tout petit peu avancé. Omari et Doué qui sont collés. Mais Doué, évidemment, derrière. Théâtre est juste. Il veut la toucher du bout de la tête parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans le dos. La communication, elle doit être évidente. Omari doit absolument la laisser. Il a ce ballon. Il te pète au pied un gros coup de botte. Et c'est réglé, en fait. Donc, Doué est forcément surpris d'avoir ce ballon-là. Parce qu'à aucun moment, il doit l'avoir dans les pieds, en fait. Donc l'erreur, elle est très clairement d'Omari sur ce but-là. Et cette erreur-là est plus à blâmer que la première, parce qu'effectivement, il cause une touche, mais c'est pas lui qui donne le but non plus. Sur ce deuxième but, le but est clairement pour lui. Théâtre fait juste ce qu'il peut. Théâtre a fait des très bonnes interventions, notamment sur cette première mi-temps. Je l'ai trouvé très bon sur la première mi-temps. Il a 3 ou 4 interventions à la mi-temps qui sont vraiment, vraiment intéressantes. Là, il fait juste ce qu'il peut. Il la dévie du bout de la tête. Doué ne doit jamais la recevoir. Si tu as une communication, effectivement, comme vous le disiez, deux défenseurs qui se connaissent au mois d'avril, tu ne dois jamais avoir cette incompréhension-là. Et donc, ces deux buts qu'on encaisse très rapidement sont deux erreurs de notre défense. Et surtout de Warmed Omari. C'est un flop évident. Benjamin Bourigeaud également, qui, en dehors de l'action où effectivement il a cette frappe pied gauche et où il fait des bonnes choses sur ce run-là, bah, il est inexistant. Sur une heure de jeu, il a 23 passes. J'avais sorti les stats hier. Un dribble, deux tirs non cadrés, 10 pertes de balles. Un duel aérien gagné, seulement deux duels au sol remportés, il n'y a rien. Voilà, un non-match de sa part. C'est vraiment dommage parce qu'on sait de quoi il est capable. Mais je vais être tout à fait honnête et c'est très dur ce que je vais dire. Sur le match d'hier et sur les matchs de la période des 4 défaites, j'ai l'impression d'avoir le syndrome Romain Danzé où tu as un joueur qui est à sa place et que tu n'arrives pas à trouver meilleur. Voilà. C'est dur, mais c'était mon sentiment sur le match d'hier, notamment. Le Chinois, salut à toi, qui nous dit « On est dans le dur, année à oublier. » Si vous y pensez, cette année, il n'y a aucun joueur qui sort du lot ou qui est régulier.
Non, c'est vrai.
Valzer qui nous dit « Bourigeaud complètement à la ramasse. » Mister Nobody, flop Bourigeaud qui n'est plus là, les remplaçants qui n'ont rien apporté. Alors, Bertoug, c'est compliqué aussi. Il y avait de l'envie.
Envie de parler de Bertoug.
Peut parler de Bertoug si vous le souhaitez.
Ah non, mais si on se penche sur Bertoug, il va prendre une volée, Bertoug. Hein.
Ouais, bah comme ça là, je pense. Hein.
Non, franchement, ça là, j'ai rien à lui reprocher.
Qu'est-ce que ça vous inspire, Bertoug? Alors, débauche d'énergie sur ce 6 mètres qu'il sauve. Si vous voyez un petit peu l'action où, pour le coup, il y avait 6 mètres, il arrive à sauver ça, et puis bon, derrière, on exploite le ballon. En dehors de ça, il y a une débauche d'énergie peut-être un petit peu trop importante. C'est compliqué, Pedro.
Mais non, mais...
Oui, je sais pas trop ce qu'il fout là, en fait. Je sais pas, ça, c'est censé être le mec qui rentre en fin de match.
Avec un profil différent.
Avec un profil différent pour faire tourner. Et dans une équipe qui est censée viser l'Europe et dans une équipe sérieuse qui a de l'argent sur son compte et qui est censée satisfaire de son mercato, ce gars-là, il est troisième ou quatrième attaquant.
Oui, complètement.
C'est hallucinant. Moi, j'en reviens pas qu'on compte sur Bertoug.
Ça te donne espoir pour ta carrière quand même, Pedro?
Hein, pardon?
Ça te donne espoir pour ta carrière quand même?
Pour ma carrière. Ouais, éventuellement. Ouais. Oui, je me dis que si lui y arrive, moi, pourquoi pas. mais je lui en veux pas, moi. En fait, je fais un constat, s'il y a un constat que je fais depuis le début de saison, j'en change pas d'un iota, et si on gagne les 7 prochains matchs, ou, non, il en reste 6, 7, bon, bref, si on gagne tous les matchs, pardon
5.
5.
5, ouais.
Putain, 5 seulement. Ouais, si on gagne nos 5 prochains matchs, je vous jure que j'en changerai pas. Je fais ce constat depuis le début de saison, de la somme d'individualité, qu'on a construit une équipe comme si on a empilé des noms et des machins, des trucs, mais il n'y a aucun lien, il n'y a aucune logique. Il n'y avait pas de logique sous Genesio, il y en a encore moins sous Stéphane qui n'a pas choisi les joueurs. Stéphane qui n'a pas jugé bon de rectifier le tir en janvier, il avait le droit de faire des demandes, j'imagine, il était en position de force. On a deux joueurs qui sont arrivés, qui ne rentrent même pas. Donc, Yildirim, je fais le même constat que pour tout le reste. On se demande ce qu'il fout là, parce que son profil rentre dans les cases Maurice, j'ai l'impression, mais pas dans les cases Stade Rennais et besoin de cette année. Et en fait, pour finir le constat sur la saison, et même si c'est un tout petit peu à leur sujet par rapport à la question d'Yildirim, il en fait partie quand même. Cette saison, elle peut réussir et tu peux viser le top 3 si tu rentres un certain nombre de critères, c'est-à-dire si Mandanda est encore à la hauteur, c'est à peu près le cas.
Sur toute la lignée, c'est plus ça le...
Si Omari et Bélossian sont vraiment montés d'un cran, c'est pas le cas. Si Matic reste toute la saison, c'est pas le cas. Si Reader que tu fais venir est capable d'apporter quelque chose dans la rotation, c'est pas le cas. Yildirim, c'est pas le cas. Que Martin Terrier se remet correctement, c'est pas le cas. que Guiri franchit enfin un palier. C'est pas le cas. Kalimuendo, pareil. C'est pas le cas. En fait, tu fais il y a une somme de paris. Si tu en remplis ne serait-ce que la moitié, tu as peut-être des chances de terminer dans le top 5. Mais quand il n'y en a aucun qui se réalise, je vois pas bien comment ta saison peut bien se passer.
Tu n'as aucune certitude, quoi.
Ouais.
Et donc, Kildirim, bah voilà, il est dans ce marasme-là.
Le chinois qui nous dit le problème c'est qu'on n'aura jamais une équipe très bonne techniquement, t'auras toujours un ou deux joueurs au-dessus mais ceux-là partiront, il ne nous reste à chaque fois que des joueurs moyens de Ligue 1, tu peux lever le niveau collectivement mais quand tes joueurs ne peuvent pas le faire ça coince. J'ai vu un commentaire qui m'a fait beaucoup rire, The Crack Ben Yedder qui dit Mbertoug il se prépare pour l'AEF. Effectivement, le 17 mai, à la veille de Reims-Rennes et de la dernière journée, vous aurez l'AEF, dispo d'ailleurs sur la billetterie du Stade Rennais. J'en profite pour faire une petite aparté, mais si vous êtes fan de MMA ou pas du tout d'ailleurs, que vous souhaitez juste voir un beau spectacle, franchement, prenez vos billets, c'est pas cher, ça commence à partir de 24€, vous avez 12 combats de 19h à 23h, c'est génial. Radio Roisanne participera évidemment à cet événement. Vous aurez deux personnes, dont Kevin, qui seront en accréditation média. Et moi, je garde la surprise, mais je serai sur la pelouse. Donc, alors, je ne combats pas, mais j'aurai normalement le badge staff. Donc, ça va être assez incroyable et on va essayer de vous faire vivre ça au mieux. Franchement, non, je vais pas combattre le chinois. Si vous voulez vraiment vous faire une expérience, franchement, la veille de Reims-Rennes, essayez de vous faire l'expérience AEF. C'est génial, c'est au Roizen Park. Là, la tribune Mordel est complète. Maintenant, on est sur les virages. Franchement, c'est trop bien, donc essayez. Voilà. Donc, tout ça pour dire que... Oui, voilà. Mbertoug, il va repartir en Turquie au prochain Mercato, nous dit Valzer. Moi, je voulais vous faire écouter la citation d'Arthur Théâtre en conf de presse. Enfin, en conf d'après-match, plutôt. Juste avant, les notations. Alors, Alan, toi, tu vas pas participer parce que c'est toi qui me les as données. On vous demande de noter les joueurs après chaque match. Selon vous, quels sont les deux joueurs qui ont la meilleure note?
Les frères Doué.
Ouais, Doué. Et peut-être que Mandanda a été mis dedans parce qu'il a fait un ou deux arrêts.
Alors, Désiré en meilleur joueur, c'est le seul qui a plus de 5. 5,70. 5,69 exactement. Mandanda à 4,66, c'est le deuxième. Et Arthur Théâtre, troisième à 4,24, qui est une note absolument horrible. Qui sont les deux plus mauvaises notes, selon vous?
Omari. Ah, on va nous dire qu'on fait de la tête de Turc, mais Omari, s'il est pas dedans, je me jette par la fenêtre.
Bon, après, Omari et Stéphane.
Je suis plein pied.
Alors, Stéphane, de très loin, 2,49.
Vache.
C'est Omari. Potentiellement l'une des pires notes d'un entraîneur. Il faudrait qu'on fasse la recherche. Ouais. Mais je pense que.
Genesio, il a dû en prendre une comme ça.
Là, ça fait beaucoup quand même. Omari, 2,63. Et le troisième, je trouve ça. Ah oui, non, oui, oui. Bourigeau, 2,97.
Ouais, bah oui, c'est logique. Hein.
Oui. Messieurs, je vous fais écouter vite fait la citation d'Arthur Théâtre. En après-match, ça dure une minute. Et puis on continue ensuite sur la situation et ce derby qui arrive.
Grosse désillusion ce soir. C'est une catastrophe. On a proposé dans le jeu, dans l'envie. C'était pas une nuit du début à la fin. Donc voilà. On n'a qu'une chose à faire, s'excuser. S'excuser pour les supporters qui ne nous ont pas lâchés. Du début à la fin, on les mérite pas tout simplement ce soir, sur plusieurs matchs. Ce soir c'est une purge, il faut se remettre en question, rentrer chez nous, c'est tout.
Vous dites bye bye à l'Europe ce soir ou il y a encore une chance?
Pas de bye bye à l'Europe, il n'y a rien du tout de toute façon. Si on joue comme ça, comment voulez-vous qu'on accroche l'Europe? Il faut se réveiller et après on verra bien. De toute façon il y a encore un match. La semaine prochaine il y a encore plusieurs matchs, mais la semaine prochaine il y a un derby qui se joue à Nantes, qui est important pour tout le club, qui est important pour nous, parce qu'à un moment donné il va falloir se réveiller, avoir un sursaut d'orgueil quand même. Pour nous, pour tout le club, pour les gens qui nous font confiance, parce qu'on fait ce soir, c'est scandaleux.
Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe qui démarre plutôt bien le match?
Je sais pas.
Vous n'avez pas de réponse?
Je sais pas, non.
Tu dis c'est scandaleux, qu'est-ce que tu trouves scandaleux particulièrement dans ce que vous avez fait?
Dans ce qu'on propose, simplement, c'est une purge, comme je l'ai dit. Une purge, il n'y a rien. Il n'y a rien de nulle part, donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, je suis vraiment désolé. Ça va? Bonne soirée.
Donc, un Arthur Théâtre très salé hier et à juste titre, qui dit les termes, comme on dit. Pour le coup, il est lucide, effectivement, comme dit Watchmaker. Un Arthur Théâtre qui parle de purge, qui est vraiment énervé sur cette fin de match, qui dit « on se comprend pas, il n'y a rien ce soir ». Lucide, mais c'est vrai que ça fait assez bizarre de voir ça au Stade Rennais. On n'était plus habitués. Quand on avait eu la citation de Bourigeaud qui était la larme à l'œil en début de saison, c'était à peu près pareil. Mais le fait est qu'Arthur Théâtre là est assez lucide. Pedro, toi qui n'avais pas entendu cette déclat d'après match, qu'en penses-tu?
Surpris. Je suis étonné d'entendre. Enfin, je suis pas étonné, non. Je suis comment dire. Je suis. J'ai pas envie d'enfoncer Arthur Théâtre parce que je m'attendais à un truc un peu grande gueule, comme il en a l'habitude. Et je dis souvent que si Théâtre avait un peu moins une grande gueule et qu'on lui coupait les cheveux, ça serait un joueur lambda de Ligue 1. Donc je m'attendais un peu une déclat. Il a l'air assez touché, marqué et. Et c'est pas lui qui montre le moins d'envie sur le terrain, donc il mériterait pas que je dise là qu'il est tout aussi responsable que les autres, parce que hier soir il montre plus de choses que certains.
Je suis d'accord.
Ouais, c'est par contre c'est très inquiétant hein, ce qu'il dit. C'est très inquiétant.
Ouais. Deuxième déclat, Olivier Cloirec s'est arrêté aussi également 3-4 minutes au micro des journalistes rennais. Il parlait, lorsque la question est revenue 2 à 3 fois, de... Qu'est-ce qu'il y a? J'ai loupé un truc?
Non. Il a dit c'est qui?
Ah, ok. lorsque les journalistes ont posé la question 2 à 3 fois sur la Coupe d'Europe, Olivier Cloirec parlait d'abord de sensations dans les matchs, de prendre des points, du derby. Bref, on ne parle plus du tout d'Europe, on ne parle plus du tout d'objectifs, on parle d'essayer de faire des choses dans un derby. C'est un petit peu inquiétant, ça aussi, Alan.
Bah ouais, le discours est quand même terrible. Hein. Je trouve que. Je comprends, enfin honnêtement c'est terrible quoi, enfin genre le discours de Cloirec quoi, qui enfin c'est quand même le représentant avec monsieur comment ça, ah oui Maurice c'est ça, oui voilà,
c'est... Ah voilà, lui c'est qui
il va l'entendre à la fin de la saison, t'inquiète.
Non mais enfin
alors il a dit qu'il serait le premier à faire le bilan en fin de saison et l'a répété 3 fois. Là aussi je trouve que c'est très déficit de la part du président, mais il disait vous inquiétez pas, on sera là en fin de saison, je serai le premier à le faire, on fera le bilan en fin de saison.
Enfin tu passes d'un mois de février qui est quand même très bon, mis à part l'aller à San Siro où t'as certains quand même l'espoir de retourner en Europe etc, et même au niveau collectif c'était quand même plutôt bien. Et même pas un mois, 2 mois après, t'as un niveau et t'as des discours. Enfin, t'as l'impression, je le maintiens quoi. Enfin, c'est moi, ça me poudre quoi. Enfin, c'est terrible quoi. C'est terrible.
Mister Nobody. Ce genre de discours. Ah ouais, non mais c'est vraiment. Cool. Mister Nobody qui nous dit on vise la LDC à faire un bon match à Nantes pour les supporters, le downfall.
C'est exactement ça. C'est exactement ça.
Léo, t'avais vu toi peut-être les déclats hier? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que toi aussi c'est tout droit comme Alan?
tu parles de Cloirec, pas de celle de
oui,
Théâtre.
Cloirec.
Ouais. Cloirec, je l'ai pas entendu. Je l'ai pas entendu en intégralité. J'ai vu que des morceaux en gros de citations. Et là, vous me communiquez le truc. C'est pas une surprise. Cloirec, ça a jamais été le meilleur des communicants sur le plan passion, etc. Surtout ce truc-là. Après, très honnêtement, de ce que vous me dites, moi, je suis pas surpris au final que le type ne remette pas sur le devant de la scène l'objectif Europe ou quoi que ce soit. Quand tu vois les purges qui sont proposées depuis c'est quoi un mois maintenant, très honnêtement, bah moi j'attends déjà première chose, j'attends de retrouver une équipe qui reproduit quand même un minimum de contenu sur le terrain. C'est l'essence même déjà c'est l'essence même du football de base. Donc que le mec, alors après encore une fois j'ai pas le j'ai pas la forme, j'ai pas du tout la forme.
Bon, on entend.
Donc vous allez me rectifier, hein?
On entend.
J'ai pas du tout la forme précise d'Olivier Cloarec, mais je suis pas surpris qu'il mette d'abord sur le devant de la scène le match de Nantes. On parle souvent, et même enfin c'est perpétuel d'ailleurs, de les matchs les uns après les autres, etc. Mais au final, c'est ce que Olivier Cloarec fait sur le match de Nantes la semaine prochaine, qui est un derby. Oui, tu dois en fait communiquer sur ce match-là. Alors, s'il se sert de ce match-là pour esquiver les questions sur l'Europe, j'ai envie de te dire c'est un choix, mais à titre personnel, je trouve pas forcément ça super maladroit. Il s'adapte aussi en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Tu vas pas te mettre à parler d'Europe en disant mais non, l'Europe c'est pas compromis. Oui, downfall complet. En fait, l'Europe, faut mettre ça à la jaille. Il est obligé de rester dans une forme de demi-mesure. Et le meilleur moyen de rester dans cette demi-mesure, bah, c'est d'attaquer sur le match d'après. Et en plus de ça, il a de la chance que ce soit un derby. Donc techniquement, quelque chose qui mobilise plus facilement.
Oui, il existe un monde où tu peux faire une réponse où tu parles ni de l'un ni de l'autre. Hein.
Mmh. Oui.
T'es pas obligé de parler. Non mais attends,
t'es pas obligé de parler d'Europe. Tu dis quoi dans ce cas-là? Tu dis rien. Non, mais dans ce cas-là, tu dis rien. Tu dis j'ai rien à dire.
Bien sûr. Aussi, attends, il est président d'un club qui est en train de se prendre des tôles depuis 4 matchs. Je l'attends pas sur. On espère faire plaisir à nos supporters à Nantes. Je l'attends sur.
C'est ça qu'il a dit.
Oui.
Bah, grosso modo, c'est ça. Oui.
Mais, non mais je vous pose la question. Je l'ai pas. C'est ce que je vous dis. J'ai pas la forme.
Et ben si vous voulez, je vous la déclare tout de suite.
Attends, écoute.
Je veux bien.
Écoute.
Ok.
Hop, je vous mets tout de suite.
La régie. Donc c'est sûr qu'en montrant un tel visage, on ne méritait rien d'autre qu'une défaite ce soir. 4 défaites d'affilée, un seul but marqué. C'est clair que c'est un visage qui contraste nettement avec ce qui a été montré depuis quelques semaines, parce qu'il y a encore 15 jours, c'était la deuxième meilleure équipe sur la poule retour. Et aujourd'hui, cette équipe, elle est méconnaissable. On est un peu sans voix en fait devant le comportement de l'équipe. Encore une fois, ce soir, c'est dur d'avoir des explications entre ce qui était montré sur le terrain il y a encore une fois quelques semaines, même sur ce qu'on a montré à Monaco dimanche dernier. Aujourd'hui, à domicile, avec le soutien des supporters, dans une semaine particulière en plus, c'est invraisemblable de montrer un tel visage. Voilà, c'est honteux en fait ce qu'on a montré ce soir. Non, mais avant de parler de points, il faut déjà montrer un autre état d'esprit, un autre visage. Franchement, on va arrêter de parler de points, d'objectifs. Il y a un match qui se profile à Nantes, qui va tenir à cœur aux supporters, au président que je suis, aux joueurs, au staff. Il faut montrer autre chose déjà, avant de parler de résultats, de manière, de ce qu'on veut. C'est montrer un autre état d'esprit sur le terrain. Ce qui est paradoxal, encore une fois, et on fera le bilan à la fin de la saison, ne vous inquiétez pas, on assumera, et moi le premier, il n'y a aucun doute là-dessus. Ce qui est, encore une fois, difficilement perceptible, c'est saut de niveau d'un week-end à l'autre pratiquement. Même si là, encore une fois, on est sur une série de 4 défaites, on était sur une série de X victoires il y a quelques semaines, et c'est assez invraisemblable de montrer un visage aussi.
Voilà, donc le discours, je le coupe parce qu'il y avait encore autre chose, mais Olivier Cloarec, du coup, au micro de Christophe Penven.
Je vois pas le problème dans la décla. Franchement.
C'est un peu plus vénère que ce que vous exposiez au débat, Romain et Alan, qui l'aviez déjà entendu. Honnêtement, je m'attendais à quelque chose de plus mièvre. Il dit ce qu'il a. Enfin, non, c'est plutôt.
La décla, pour moi, elle est claire, elle est carrée et elle reste.
Moi, je la trouve désolidarisée de l'équipe.
Ah, bah oui, oui.
Je la trouve. Oui, mais tu peux pas, t'es le président de l'entité
Stade Rennais. C'est en ça que c'est compliqué quand même. Et j'allais dire, il y a autre chose, c'est que c'est pas le tout de dire montrer d'autres. En fait, c'est presque quand tu dis désolidarisé, au tout début, on va dire la toute première partie de son intervention, t'as presque l'impression d'un constat de journaliste en fait.
Mmh. Et pas d'un président de club, quoi.
Mais ce qu'il dit est vrai. On peut pas nier que
c'est
tout ce qu'il dit.
C'est vrai, mais t'as pas le droit de te désolidariser ton équipe comme ça.
Ce truc de désolidariser, ça marche pas, je suis désolé. Hein. Parce que l'étant le nombre de fois où... Non. L'étant le nombre de fois où il nous a défoncé l'effectif après des prestations honteuses, je suis désolé, on parlait pas de désolidarisation. On parlait d'un président qui parlait...
Non, mais tu prends Pol Pot, là, comme exemple.
Mais non, mais je te prends l'exemple le plus frappant, mais c'est pas l'exemple qui me plaît le plus à prendre. Mais à un moment, parler de désolidarisation, c'est juste faire du bashing gratuit. Mais je sais que c'est pas ce que fait Romain. Mais en gros, c'est parce que c'est Olivier Cloarec qu'on dit ça. Il se désolidarise pas. Il fait un constat. Mais il est obligé de le faire, le constat.
Non, mais quand Florian Maurice parle, il est obligé.
D'accord, mais tu dis c'est parce que c'est Cloarec. Bah, à un moment donné, c'est peut-être parce qu'on est habitué aux sorties un peu tièdes de Cloarec qu'on sait que ça va être tiède de toute façon.
Ouais, mais là, elle est pas tiède.
Mais oui, quand Florian Maurice parle de l'équipe, il englobe le staff, il englobe les joueurs, il englobe le coach, il s'englobe lui. Là, Olivier Kloarec n'a rien à voir dans la prestation de ce soir.
Ouais,
et si, en fait, la question qui a été posée derrière, c'est, et à juste titre, il y a deux choses qui ont été très bien dites par les journalistes, c'est, oui, mais ce mercato, c'est le vôtre, celui de Florian Maurice, et de vous, monsieur Kloarec. Et là, ouais, les joueurs ont fait un mauvais match. Non, mais en fait, tu dois t'inclure dedans, tu dois te remettre en question. Là, sur ce match-là, sur cette déclat-là, il n'y a aucune remise en question d'Olivier Kloarec. Mais la deuxième chose aussi, et c'était très bien dit aussi par Vincent Simoneau, c'est que le discours du Stade Rennais depuis 5 matchs, c'est « Oui, mais vous inquiétez pas, il reste des matchs, il reste des points. » Vincent Simoneau a dit « Les gars, il ne reste plus de points. » Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a reformulé encore en disant bah, « Oui, oui, non, non, mais c'est pour ça, on arrête de parler de points, on parle de Nantes et on parle d'émotions. »
S'il y a de la contradiction derrière dans le discours par rapport à ce que tu as coupé, du coup, j'imagine que c'est ce qui était coupé. Oui, je peux entendre que tu puisses lui tenir rigueur de ce passage-là, de son interview, effectivement. Mais sur le reste, je suis désolé. Pedro dit, et je suis assez d'accord avec ça, on était habitué à avoir un président quand même assez tiédasse dans ses déclarations. Là, aujourd'hui, enfin, en l'occurrence hier, je vois un président qui n'est pas tiédasse, qui pose le constat.
Mais tant mieux.
Capable de poser. Voilà, franchement, mais moi je suis très content d'entendre ça.
Je ne réacte pas contre la réaction du président, je réacte parce que il y a un constat qui est très fataliste et où là, il nous dit à demi-mot qu'il n'y a plus d'espoir sur la fin de saison. Il ne va pas te dire qu'il n'y a plus d'Europe, bah si.
Mais non, il ne dit pas ça, il ne te dit pas qu'il n'y a plus d'espoir. Il te dit qu'à un moment, on ne voit plus rien sur le terrain avant de reparler d'objectifs de Coupe d'Europe pour atteindre ce putain d'objectif.
Comment tu veux faire venir les supporters à Nantes et fédérer tes supporters quand tu dis que maintenant, la priorité, c'est un...
Non, mais en fait, on choisit quoi? On est dans un entre-deux perpétuel. On fait quoi? On suit la communication Julien Stéphan du « on va se remettre en question, il faut travailler ». Enfin, on suit quoi? On suit la langue de bois perpétuelle ou on écoute, pour le coup, celui qui respecte un peu le contexte? Je suis désolé, à un moment, enfin, moi, je suis plutôt content d'entendre Olivier Kloarec sortir une décla comme ça après un match aussi merdique. Parce que si on n'avait pas écouté Olivier Kloarec, on se serait contenté du discours de Stéphan. Alors, pour le coup, je ne suis pas sûr qu'il ait été ultra, ultra clément dans sa conférence d'après-match. Mais quand on écoutait la manière qu'il avait de communiquer après Monaco, après Paris, après Strasbourg, après Lorient, je suis désolé. Non, mais à un moment, tu pètes un câble. Le supporter, il pète un câble. Il en a marre d'entendre ça. Il en a marre. Il en a marre d'entendre des joueurs qui sont dans le déni, qui te sortent toujours les mêmes discours du « Ah ben oui, il va falloir qu'on retravaille, il n'y avait pas tous les ingrédients qui étaient là, etc. Mais, » Mais putain, si c'est pour dire des choses comme ça, mais arrêtez de communiquer. Les interviews d'après-match, les conférences de presse avec les joueurs, les interviews de mi-temps. À un moment, je suis désolé, on leur fait faire des communications.
Non, mais je suis d'accord.
Je ne sais pas comment ça s'appelle, pas des stages de com, mais des…
Médiadés.
Vous voyez ce que je veux dire?
Média training.
T'as dit, Romain? Oui, du média training. On leur fait faire du média training de manière perpétuelle. À un moment, le but du média training aussi, c'est pas de faire de la putain de langue de bois perpétuelle, quoi. Ou alors c'est moi qui suis, mais je suis peut-être complètement utopiste, hein, c'est possible. Je suis peut-être parfaitement utopiste sur ça, et j'aurais pas de problème à le reconnaître. Mais moi j'en ai ras-le-bol dans ce genre de situation. J'ai besoin d'avoir le sentiment d'une unité collective de. On sait qu'on est en train de remuer la merde, mais on va la remuer tous. On est dans la merde, on va remuer la merde tous ensemble et on va faire en sorte que voilà, il y a une émulsion, de merde. C'est pas la plus agréable,
T'as besoin de le savoir si ça existe.
On va pas faire croire que ça existe pas là.
J'ai le droit de me poser la question. C'est qui les leaders du vestiaire qui sont en train d'haranguer là? C'est qui les mecs qui sont en train de remonter le niveau de l'équipe? C'est qui les relais, les gueulards?
Ça, je suis d'accord. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, j'imagine que tout le monde a conscience qu'on est dans la merde. Mais ce qui, moi, me fait peur, c'est que, en gros, tu es censé avoir cette prise de conscience collective. Deux, on arrête les conneries. Parce que pour le coup, Arthur Théâtre, voilà, bon, grande gueule, tout ce que tu veux, machin. Ok, il dresse le constat. Mais est-ce que derrière, ça va être le mec qui va aller tirer tout le monde vers le haut? Ça, je suis pas sûr. Je pense que c'est autre chose. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est que t'as pas de. C'est le rôle de qui alors?
Enfin, c'est pas lui de le faire, hein. T'as Santa Maria, Bourigeau.
Ouais, d'accord, mais il peut tout aussi bien participer à faire le truc. C'est bien beau de venir faire le gueulard, la victoire ou rien, machin, haranguer les supporters, tout ça, faire le mariole
quand t'es, comment dire, c'est clair.
Dans ce cas-là, si tu le fais à l'extérieur devant les caméras, tu vas pas me faire croire que t'es pas capable de le faire encore plus à l'intérieur. Il y a une forme de cohérence aussi à respecter. Mais moi, ce qui m'emmerde, c'est de voir que t'es censé prendre conscience que. On est tous dans la merde. Il y a un objectif en fin de saison qu'on est censé devoir respecter. Et que, oui, le seul qui a l'air d'avoir, pour le coup, à l'issue du match d'hier, a conscience que c'est quand même bien de la merde, bah, c'est le président. Je suis désolé, oui. C'est le seul hier soir qui a un discours logique et qui reste.
Non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est ouf quand même, on va pas non plus. On va pas passer sous silence que c'est lui le chef en haut de la pyramide et que c'est le chef en haut de la pyramide qui, à 5 matchs de la fin, se retourne et fait t'as, c'est de la merde quand même, hein. T'as, c'est de la merde. Mais... c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Mais à aucun moment il dit je suis le chef de la merde.
C'est ça.
Monsieur, on verra comment ça se passera en fin de saison. Je pense que le triumvirat il sera là pour assumer ses responsabilités.
C'est ce que, en tout cas, il disait effectivement.
Le triumvirat.
Monsieur Cam qui nous dit les joueurs. Non, merci Léo de dire ce que je pense. J'en ai ras-le-bol également. Seule la communication de Arthur m'a fait du bien. Les joueurs qui disent il nous reste 5 matchs pour inverser la tendance, puis la semaine prochaine ils diront il nous reste 4 matchs, etc. C'est comme ça depuis toutes les défaites cette saison, même fin 2023, ça me fait vriller. Bon, messieurs, on termine très
pour
rapidement.
Pour compléter, Romain,
ouais, vas-y.
Enfin, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'il n'y aurait pas un souci d'exigence dans le club, quoi ? Enfin, non ?
Non, je pense pas.
Je ne sais pas. Sous quelle forme ?
Non, je pense pas.
Bah, je sais pas. Par exemple, quand je vois la demi-finale contre Paris, j'avais pas l'impression qu'on jouait une demi-finale, quoi.
Non, mais je suis assez d'accord avec Alan. Mais c'est un constat qu'on fait depuis 25 ans. Hein.
Après, et en plus, je sais plus qui c'est qui a sorti ça en conférence de presse, mais quand on nous dit que c'est le meilleur pari depuis 5 ans, 2 mois avant, on était à deux doigts de les taper. Hein. Et oui. On avait la même équipe quasiment sur le papier. Hein.
Ils ont failli se faire taper par Clermont. messieurs, dernière petite aparté, on finit rapidement sur ce derby, puisque c'était la communication orientée par le club, alors on va en parler. Un Nantes qui pour le coup est performant récemment, qui a gagné aujourd'hui contre Le Havre et qui se donne de l'air, qui depuis l'arrivée d'Antoine Comboiré, le comeback de Monsieur Comboiré est vraiment performant et intéressant. Est-ce que enfin ce serait pas le premier derby depuis très longtemps qui aurait en fait une saveur, un enjeu, une vraie... Ah, bah, je vous vois faire la moue tous les trois. moi, je suis hypé. Est-ce que ce serait pas, pour la première fois depuis quelques temps, un vrai derby avec des vrais enjeux et on doit absolument le gagner, pas comme un match normal ? Léo ?
Bah oui, ça va être un derby au final où tu vas...
Mais d'habitude, Nantes, c'est un match comme les autres en vrai depuis 6 ans.
Bah oui, mais pourquoi ? Mais parce que Nantes est parti dans les tréfonds de la Ligue 1 et que Rennes justement était dans une phase d'ascension assez impressionnante et que bah il y a eu des écarts qui se sont créés qui faisaient que bah Rennes a été très longtemps sur ces dernières années sauf bah petit truc par-ci par-là au-dessus de Nantes et ça en faisait des matchs qui étaient qui étaient cool à voir pour certains, surtout ceux au Roazhon Park. Il y avait ce petit côté, bon, bah, c'est Nantes, mais au final, tu savais assez vite que la différence pouvait être faite sans trop de difficultés. Là, pour le match de la semaine prochaine, bah oui, peut-être, mais parce qu'au final, tu vas avoir deux équipes d'un niveau vraisemblablement similaire. Hein. Et c'est ça qui est triste à dire. Et que si, alors attends, c'est quoi en termes de. Je crois que Nantes, ils sont pas si loin que ça de nous. Hein, je crois que s'ils gagnent la semaine prochaine, ils reviennent à quoi 3-4 points 4-5 ouais, points peut-être.
La Ligue 1 est assez serrée, effectivement. Mais
tu vois, mais en fait, moi je suis ultra, très honnêtement, et j'en discutais, je l'ai tweeté hier en sous-poste. Moi j'étais persuadé, il y a un mois de ça, à l'issue du match contre Marseille, j'étais absolument persuadé que Rennes allait se qualifier en Europe. Pour moi, il y avait aucune autre possibilité que Rennes ne se qualifie pas, c'était pas envisageable pour moi quand je voyais les contenus des matchs, mis à part effectivement l'accident Lorient, mais qui n'avait même pas été un match maîtrisé par Lorient. Je ne voyais pas dans quel monde, quand on regardait aussi les autres dynamiques des clubs et ce que les autres clubs proposaient dans cette course médiocre à l'Europe, je ne voyais pas dans quel monde Rennes n'y serait pas. Et en fait, aujourd'hui, je suis persuadé de l'exact inverse. Et j'ai discuté avec un supporter nantais. Et lui pense dans tous les mondes qu'ils ne vont jamais nous battre. Et moi, je suis persuadé de l'exact opposé. Je ne nous vois jamais gagner à Nantes la semaine prochaine.
Dernière défaite de Rennes à Nantes, c'était quand
C'était pas en 2019, je crois, sur un pénalty. Ah bah non, c'est la défaite 2-1 il y a 2 ans.
Exactement, 2022, premier but pourtant de Flavien Tay. Et effectivement, Khalifa Koulibaly et Nicolas Pallois avec cette fameuse reprise.
De Nico.
Aïe, aïe, aïe.
Ouais, mais moi, je suis absolument pas serein pour la semaine prochaine. Et je ne le suis plus du tout, en fait, si c'était une question que tu étais amené à poser pour la fin de l'émission, Romain. Je ne suis plus du tout confiant pour quoi que ce soit pour l'Europe, parce qu'en fait, je vois, et c'est là où, tu vois, Alan parlait d'exigence. Moi, honnêtement, je ne pense pas que ce soit un problème d'exigence au sein du club. Après, pour moi, il y a des choses. Non, mais c'est... et je te donne mon avis sur ça.
J'ai des hypothèses, mais.
Non, mais je peux entendre hein, que ce soit quelque chose qui soit évoqué, mais c'est pas quelque chose que je partage.
C'est le mois de février qui me fait douter. Quoi, ouais.
Non, mais je comprends. Mais c'est pas quelque chose que je partage. Moi, là, de ce qu'on voit, en tout cas, notamment sur les derniers matchs, après donc, la trêve Marseille, pour moi, tu n'as pas de symbiose. Et ça, c'est un gros doute que j'émettais déjà lorsque ça allait bien. C'était que je n'imaginais pas une espèce de symbiose entre Stéphane et les joueurs qu'il avait. Et aujourd'hui, je suis à peu près... c'est triste de dire que je suis content de voir que je ne me suis pas trop gouré là-dessus, c'est qu'en fait, Stéphane a des joueurs qui ne correspondent absolument pas, mais absolument pas à ce qu'ils veulent mettre en place.
C'est pas lui qui a construit l'équipe non plus.
D'où justement une forme d'indulgence que je peux avoir à son égard en me disant que peut-être qu'il essaye aussi de bricoler avec ce qu'il a et ce qui lui convient le mieux. Et que on va malheureusement repartir sur un nouveau cycle, cette fois-ci un vrai nouveau cycle la saison prochaine, avec peut-être des joueurs qui lui conviendront plus parce que il aura choisi des joueurs adaptés à ce qu'il veut mettre en place, tous ces trucs-là. Mais aujourd'hui, je suis persuadé de ça, c'est qu'il y a aucune corrélation entre Stéphane et ses joueurs, et je pense même qu'il y a beaucoup de joueurs dans cet effectif qui ne sont pas du tout en phase avec ce que Julien Stéphane cherche à mettre en place ou a cherché à mettre en place depuis qu'il est de retour. Il y a eu la dynamique collective positive qui a fait que forcément, mentalement, t'es en pleine bourre, etc. Mais au final, après, ce groupe est retombé dans ses travers de confiance. Et dès que t'as un creux, il s'effondre. Et puis, terminé, pour les relever, c'est basta. Et là, pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont déjà, qui ont baissé la tête et qui ont terminé leur saison. Pour eux, elle est terminée, je pense.
Alan, on finit rapidement. Toi, ce derby, comment tu le sens? Sur les 10 derniers matchs, c'est 7 victoires du Stade Rennais. Un match nul et 2 défaites, comment tu le sens? Est-ce que pour toi, justement, l'enjeu du derby est un petit peu relancé? Est-ce que pour toi, tu as un constat un petit peu défaitiste aussi comme Léo, tu y crois pas? Comment tu le sens?
Je vais rejoindre Léo, j'y crois pas parce que je pense, comme en Nantes, ils ont l'objectif maintien et ils ont l'air quand même bien plus concernés collectivement. Et j'ai l'impression que on a plus de joueurs, enfin, ou très peu qui sont concernés de manière collective. Je crois que c'est une vidéo de Thomas Rasouli, quand tu vois le nom. Après, c'est compliqué aussi, mais quand tu vois les joueurs, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs en face du COP à l'issue du match, pour quand même saluer le public.
Il y a eu peu de joueurs, effectivement.
Je crois, C'est quoi, je trouve que en fait il y a plus de joueurs je vois plus beaucoup de joueurs concernés depuis Strasbourg, et c'est quand même terrible, parce que après à l'issue du match, comme disait de Marseille, comme disait Léo, tu pouvais croire à l'Europe au vu des dynamiques des autres clubs devant nous, Lens, Marseille, Reims, voire même quand on voit maintenant Lyon qui revient, tu pouvais encore croire à l'Europe. Ça fait 4 matchs, je vois plus de joueurs concernés. Je vois des joueurs qui sont dans une équipe de ventre mou et qui attendent patiemment le mois de mai. Et c'est terrible parce que le mois de février est quand même te dit l'inverse, quoi, tu vois. Donc j'ai peur pour le match de Nantes et la fin de saison aussi.
Ok. Guillaume qui dit est-ce que la Brigade Loire sortira une banderole Blas un aller sans retour? Je sais pas si le fait qu'Ablin étant prêt a le droit de jouer. Alors pour Ablin, je ne sais pas du tout. J'ai pas du tout l'info, c'est une bonne question.
Non, je pense qu'il pourra pas.
Je sais pas. Guillaume qui nous dit Stéphane a beau ne pas avoir un groupe qu'il a choisi, mais ses changements incohérents et forcer Blas à le faire jouer sur l'aile comme il le faisait avec Thé en 2018, il grille certains joueurs. Oui, alors, après, Blas s'est grillé bien avant, si je peux me permettre. Pedro, je te laisse terminer sur ce derby.
Ouais, écoutez, je crois que le truc le plus marrant du match, ça va être de voir Blas de retour à Nantes. Si ta question, c'était de savoir si on avait un enjeu retrouvé, un enjeu, je sais pas. Par contre, une vraie adversité, c'est certain.
Puisque, si on nous rentre dedans.
Nantes n'ayant pas réussi à se hisser à notre hauteur ces dernières années, on a la bienveillance de se mettre à leur niveau depuis quelques matchs. Donc, on va se faire cogner, je pense. Enfin, on va se faire cogner dans la manière. Mais comme tout est inversé depuis pas mal de temps et que ce match court à la catastrophe, on peut aussi très bien faire un match de merde, se faire cogner pendant 90 minutes et gagner par un 1-0 dégueulasse. Je miserais assez bien là-dessus, moi, histoire de juste se redonner suffisamment d'espoir pour bien nous pourrir la fin de saison.
Un exploit individuel.
Micros espoirs, tu vois, pour à condition qu'il y ait quelques résultats positifs, comme on... enfin positifs pour les pour nous dans les autres matchs. Ça pourrait relancer la joie de certains, ça pourrait être assez amusant. Non, mais voilà, j'en attends pas grand-chose. Je pense qu'on va avoir une équipe de revanchards. Nous, on montre depuis quelques semaines qu'on est vraiment en bout de course. Ce que vous dites, vous dites que vous avez l'impression d'avoir des joueurs qui attendent patiemment le mois de mai. Je vous le dis, c'est pas une impression. Vous avez des joueurs en face de vous qui attendent patiemment le mois de mai.
Déjà, juillet même.
Déjà, dans une équipe composée d'une vingtaine de joueurs professionnels, toutes les saisons, tu as ceux qui sont plus ou moins concernés. Tu as ceux qui sont véritablement des joueurs issus du club. Tu as les jeunes qui croient en début de saison, qui pensent comme tel, par exemple, tu vois, qui te dit en septembre, j'espère jouer au Stade Rennais toute ma vie, et qui signe au Bayern en juin, et qui sont en conflit avec le club à partir de mars. Tu as ceux qui sont en fin de carrière de Ligue 1 et qui ont besoin de continuer à briller encore un peu. Tu as tous les profils, mais globalement, quand tu es vraiment dans le dur, tu as très peu de ces profils qui s'intéressent véritablement à la vie du club, les supporters et tout. Ces mecs-là, ils ont une carrière à continuer à gérer derrière. Pour certains, ils savent qu'ils seront au Stade Rennais l'année prochaine, qu'ils laissent passer l'orage. Pour d'autres, ils savent déjà qu'ils cherchent un nouveau terrain de jeu. Donc, il ne faut pas plus attendre grand-chose de cette équipe après le match qu'on a vu hier, parce que si elle a rien fait hier, je ne vois pas trop ce qu'elle fera sur les 5 prochains matchs.
Ouais. Bon, fin d'émission, pas très joyeuse.
Une bonne nouvelle quand même.
Allez,
mais j'ai la bonne nouvelle quand même, histoire qu'on rigole jusqu'au bout.
Qu'on est dixième. Comme disait Léo, l'Olympique Lyonnais est en train de mener face au Stade Brestois. Donc, superbe nouvelle finalement, Léo.
Non, mais c'est le fait d'avoir abordé le sujet Lyon. Enfin, tu sais, le lien Lyon, Matic, départ Stade Rennais. Enfin, ça veut pas.
C'est la malédiction Olas.
La malédiction Olas. Jusque là, il nous regarde. Il nous surveille.
C'est possible.
Ah là là.
Le chinois qui
la
dit
DNCG de, la de 5 francs. D'hiver. La DNCG de l'hiver. Ouh, 70 millions d'euros.
Bon, et ben messieurs, on va finir tranquillement cette émission. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis ce soir. Mine de rien, ça fait quand même du bien, même si c'est sûr qu'on commence pas l'émission avec le sourire, mais cette heure de thérapie fait toujours du bien après une belle défaite. Espérons la semaine prochaine une victoire. C'est samedi 17h face à Nantes. Léo, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin ? Moi, j'en aurai un.
Merci Romain, merci Alan et Pedro. C'était cool de faire l'émission, ça faisait un bail. Faut croiser les doigts pour que il y ait un sursaut d'orgueil d'ici la fin de saison, même si personnellement, je crois plus. Ça y est, je bascule officiellement dans la team pessimiste après avoir longtemps... Voilà. je suis longtemps débattu pour rester chez les optimistes, là ma saison d'espoir est terminée. Mais bon, on va attendre de voir ce qui va se passer et c'est tout. Passez une bonne semaine et n'oubliez pas qu'à la fin, c'est que du football.
Ouais. Moi, deux mots pour cette fin d'émission. Le premier, c'est un mot pour la famille de Nicolas Hulbeck, parce que ça a été une semaine quand même particulière pour le Stade Rennais. On a appris la disparition de Nicolas Hulbeck à l'âge de 52 ans. Il avait quitté le Stade Rennais pour justement prendre du temps pour sa maladie. Il avait repris des fonctions du côté de Nancy, et il y a quelques semaines, il avait justement s'était retiré de ces fonctions-là, donc on savait qu'il n'allait pas bien. Ça faisait 3 ans qu'il se battait avec un cancer. Et voilà, on a appris sa disparition cette semaine. Une semaine vraiment particulière, je sais pas vous, mais moi ça m'a vraiment fait bizarre parce qu'il a, voilà, c'était notre avant-dernier, enfin c'était notre précédent président. Donc une grosse pensée pour sa famille, pour sa femme, pour ses enfants. Voilà, pour l'univers foot aussi, parce que il avait une très bonne image, que ça soit à Nancy, c'était un professionnel du foot qui était apprécié. Donc un voilà un mot collectif de la part de toute l'équipe de Radio Roisonne pour son entourage. Et voilà, c'est des moments qu'on n'aime pas, qui font partie de la vie d'un club, etc. Mais c'est très triste. Et voilà, une grosse pensée pour Nicolas Hulbeck, pardon, et son entourage. Alan, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Est-ce que t'as un petit mot pour la fin?
Bah non, merci à vous, hein, les gars. C'était encore bien cool de pouvoir parler du Stade Rennais malgré la situation et le match d'hier. Mais non, voilà, on va suivre le match de Nantes. Et puis, bah, je pense qu'on va aussi rejoindre la team un peu pessimiste. Hein, parce que bah, vu ce qu'on voit depuis les 4 matchs et ouais, l'état d'esprit, bah, et puis en plus avec les matchs qui arrivent, que ce soit des matchs un peu couperés comme Brest et encore plus Reims et aussi Nantes, du coup, bah ouais, c'est peut-être le bon moment de repartir sur un cycle, sur une saison sans Coupe d'Europe et repartir sur de bonnes bases. Ouais. Donc voilà.
Petit motif, je ne sais même pas si c'est un motif d'espoir, mais en fait, tous les concurrents pour cette 7e, 6e place vont s'affronter.
C'est ça aussi. Et en plus, ce qui est quand même assez terrible, enfin, c'est pas terrible, mais tu es que à 4 points de Lens qui est 6e, quoi. Oui.
Avec un match de retard, mais. Non, qui n'a pas de match de retard d'ailleurs, ils ont perdu contre Metz. Donc, oui. Non, effectivement, c'est Nice-Marseille qui ont un match reporté.
C'est ça qui est encore moins compréhensible.
Et pour le coup, nous, on affronte Brest, Lens et Reims. Reims affronte Marseille, Brest et Nice, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tout le monde s'affronte. Lens aussi affronte des concurrents directs. Donc, effectivement, cette fin de saison n'a pas encore dit son dernier mot. Mais ça commence à être l'horizon s'assombrit, on va dire. Pedro, merci à toi d'avoir participé à cette émission. Je te laisse donner ton petit mot de la fin.
Merci à vous, messieurs. C'était un moment de catharsis intéressant. J'ai également été très touché, moi, par la disparition de Nicolas Hulbeck cette semaine. Et je suis ravi que tu aies pu en dire un mot. On a perdu un grand président, mais surtout quelqu'un de profondément humain qui était apprécié de toutes les équipes du Stade Rennais, de tous les membres du staff, même les gens de l'ombre, les jardiniers, les cantiniers. Bref, une semaine bien morose, donc. On se revoit la semaine prochaine pour le derby. Pas grand-chose à en attendre, ni de cette fin de saison, mais allez savoir, hein, vu que c'est une saison de Ligue 1 vraiment très, 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 très bizarre. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je souhaite juste que Brest... un seul souhait pour la Ligue 1 ces années, c'est que Brest se maintienne à une très jolie place.
Et oui. On salue nos amis aussi de Brest On Air, qui font un petit peu comme nous, mais de leur côté. On les salue et ils sont bien heureux cette saison. J'ai d'ailleurs eu droit à leur fabuleux stick. je ne sais pas si vous voyez ce stick, mais qui dépose partout dans tous les stades après chaque victoire. Bonjour, vous avez perdu contre le distributeur officiel de légumes. Voilà, donc merci beaucoup à l'équipe de Brest On Air. De quoi ?
Est-ce qu'ils recrutent pour l'année prochaine ? Comment tu vas faire, chef ?
Non, il y a une clause de confidentialité, c'est pas possible.
Il y a une équipe qui gagne.
Voilà, ça fait bizarre. Voilà, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. Je pense que ça vous a fait du bien aussi à vous, mine de rien, de parler après ça. Les gars qui me disent dans les commentaires, non, Ablin ne pourra pas jouer comme au match aller. Merci pour l'info. Je termine avec un mot personnel. Je n'ai pas ma caméra, malheureusement, ce soir encore pour des raisons techniques. Mais je regarde quand même mon écran. C'est un moment particulier aussi pour moi, sur le plan perso, parce que j'ai eu l'honneur et le bonheur plutôt d'avoir un petit Thiago autour de moi. Je suis de nouveau parrain. Je ne suis pas papa, mais parrain. Donc félicitations à Angelina et Nico qui m'ont offert ce grand plaisir. Thiago que je vais rencontrer dans quelques jours. Voilà, hâte de te rencontrer. Il sera fan, apparemment déjà fan d'un club rouge et noir. C'est le RCT. Moi, je vais essayer de lui donner le côté football. Pour l'instant, il a un ballon de rugby entre les mains, donc c'est un peu compliqué. Mais t'inquiète pas, on ira au Roisland Park. Donc voilà, un petit mot perso pour finir sur une bonne nouvelle. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée, très bonne semaine. Et donc, retour sur un nouveau match samedi prochain contre Nantes. Espérons une victoire dans le derby, un parcage qui risque d'être très fortement limité. Les places sur les côtés qui peuvent être accessibles, mais un déplacement à risque, donc faites attention à vous. Merci de nous avoir suivis et donc à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Salut tout le monde.